tout à l'heure, un frère dans sa prière a rappelé qu'aujourd'hui, c'est le dimanche de l'Église persécutée. Je ne m'en souvenais pas, franchement. Mais le texte que j'ai choisi de méditer avec vous me semble tomber à pic. C'est dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 10. On va lire vers le verset 16. Matthieu, chapitre 10, verset 16. On va lire jusqu'au verset 20. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme des colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas, ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous aurez à dire. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Et encore les versets 24 et 25. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne craignez donc pas, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Il y a un autre texte où Jésus dit, après avoir tué, ils ne peuvent rien de plus. Quelle consolation, hein ? C'est déjà pas mal. Mais voilà, Dieu a une botte secrète, c'est la résurrection. Les croyants qui meurent dans le Seigneur ont cet ancrage céleste, sûr et certain, que la mort n'est pas la fin de tout. Mais Christ est vivant et il fait vivre ceux qui lui appartiennent. Alléluia. Bon. Je vous envoie, dit Jésus. Qu'est-ce que c'est qu'être une église apostolique? Ce n'est pas le nom d'une dénomination. C'est d'abord une église qui est envoyée. Elle est envoyée vers les autres. Elle n'est pas là pour elle-même. Pour se regarder comme la Sulamite du Cantique, des Cantiques. Elle se contemple, elle se regarde. J'ai lavé mes pieds, comment les salirais-je? Non, l'Église est apostolique. Aucune Église ne l'est pas. Elle est envoyée. Elle est envoyée vers les autres. Il faut que nous en ayons conscience et aussi que cet envoi est risqué. Dieu nous risque dans le monde. notre situation est exposée. Il faut l'accueillir, ça. Il faut l'admettre. Quoi de plus opposé que les moutons et les loups? Effectivement, on en a entendu parler il n'y a pas si longtemps, depuis la réintroduction du loup dans les Pyrénées ou dans d'autres zones montagneuses. Les bergers s'en plaignent, bien sûr, parce qu'ils font des ravages dans leurs troupeaux. On n'est pas encore arrivé à l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe 11, qui dit que dans une création renouvelée, le loup habitera avec l'agneau. Pourtant, c'est encore la fable de la fontaine qui reste vraie. Il y en a un qui mange et il y en a un qui est mangé. Devinez. Alors, pour traverser les temps qui viennent, les années qui viennent, je vous invite à partager quelques questions. Quelle est notre place dans ce monde? Quelle est notre place dans l'histoire? Dans la création même, en tant que disciples de Jésus-Christ. Nous avons une place dans le monde, dans la cité des hommes, dans la police. Ce n'est pas les CRS, hein. C'est le mot grec qui désigne la ville. Quelle est notre place dans la police, dans la ville, dans la cité? Quelle est notre place dans le mouvement de l'histoire? Quelle est notre place dans la création? Le souci écologique ne doit pas être absent de nos têtes, de nos cœurs, car Dieu aime sa création, n'est-ce pas? Comment témoigner aujourd'hui de la bonne nouvelle du royaume de Dieu? Car je crois profondément que ce royaume est appelé à impacter notre histoire, toutes les nations, toutes les cités des hommes. Le royaume de Dieu doit impacter profondément la création tout entière. Je vous rappelle ce texte de Paul, Romains 8, versets 20 à 22. Paul nous dit que la création tout entière soupire et gémit après la révélation des fils de Dieu. Qui sont-ils, ces fils de Dieu? C'est vous et moi. C'est le peuple du Seigneur, mais qui sera révélé dans leur véritable nature renouvelée, glorieuse. Et la création tout entière attend ce jour dans les gémissements et les soupirs. Elle sera affranchie, la création tout entière, de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes. Et Paul poussera le raisonnement encore plus loin. Il va jusqu'à dire, l'Esprit de Dieu en nous gémit. Il attend ce jour. Il ardemment souhaite ce jour de la révélation. Alors que faire en attendant? Rester les bras croisés et attendre que ça vienne? Certainement pas. Dans ce verset 16 de Matthieu 10, Jésus fait référence à quatre animaux. Deux sont domestiqués par les humains, le mouton, la colombe, et deux sont des animaux sauvages, réputés pour leur cruauté, des animaux dangereux, le serpent et les loups. Moi, ce qui me surprend, c'est que Jésus recommande à ses envoyés d'adopter une caractéristique des serpents. Ça ne vous a pas choqué ? Soyez donc avisés comme les serpents, symbole de sagesse, de prudence. La Genèse nous dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Et Jésus nous dit bien, soyez en quelque sorte rusés, avertis. Un homme averti en vaut deux. Eh bien oui, dans notre rôle d'envoyé, de témoin de l'Évangile, il ne faut pas jouer inutilement les héros. Je pense à ce jeune missionnaire désireux d'apporter l'Évangile à une population qui, à plusieurs reprises, a fait savoir qu'elle n'en voulait pas. Il y est allé malgré tout et on a retrouvé son corps percé de flèches. Vous avez entendu parler de cette histoire. Alors je ne juge pas de l'action de ce jeune missionnaire. C'est courageux, c'est héroïque, oui. Mais on peut cependant se poser quelques questions. Son sacrifice était-il plus utile que s'il avait, comme l'apôtre Paul, accepté de ne pas pouvoir annoncer l'Évangile où il le projetait ? Le livre des Actes nous le dit, chapitre 16, on va le lire, tiens. Actes chapitre 16, versets 6 à 8. Vous n'avez pas vos Bibles ? Autrefois, tout le monde venait avec sa Bible, hein, à l'église. Maintenant, il y a les rétroprojecteurs. Acte 16, verset 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivé près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Curieux, non ? L'Esprit de Dieu empêche d'évangéliser parfois. Pourquoi ? Mystère ? Il y a des temps de mûrissement pour certaines situations qu'il faut respecter. Jésus dit à ses apôtres, « Quand on ne vous recevra pas dans une ville, allez dans une autre. » Vous savez ce que c'est qu'un intégriste ? C'est quelqu'un qui fait la volonté de Dieu, qu'il le veuille ou pas. Il faut une certaine humilité pour accepter les impasses que Dieu nous impose. Parfois. Pas toujours, mais ça peut arriver. Autrement dit, on n'est pas là pour imposer l'Évangile, simplement pour en témoigner. Et pas seulement avec des discours, mais avec tous nos comportements. Tout ce que nous sommes dans la vie ordinaire, dans la vie professionnelle, la vie de couple, la vie célibataire. Voilà ce à quoi nous sommes appelés par notre envoi. Et oui, il ne faut pas jouer les héros inutilement, être plus royaliste que le roi. Soyez prudents et avisés. Dit Jésus, mettez-vous en garde contre les hommes. Mettez-vous en garde contre les hommes. Il est arrivé à Jésus de fuir, de se cacher. Pourtant, c'était Jésus qui commande au vent et à la mer, et ils lui obéissent. Qui fait venir plein de poissons dans les filets des pêcheurs. Qui transforme. Qui multiplie les pains. Ce Jésus-là qui appelle les morts hors de leur tombeau, ce Jésus-là, il lui est arrivé de fuir, de se cacher. C'est quand même étonnant, non? Et puis, il ajoute un autre exemple, cette fois-ci celui de la colombe. Soyez simples comme des colombes. Simples, d'autres versions disent purs. En fait, ce terme désigne le fait d'être sans duplicité, ne pas avoir un double visage, avoir une cohérence entre les paroles et les gestes. Soyez simple, soyez tout d'une pièce, soyez entier. Ne soyez pas commode avec des tiroirs, mais soyez armoire à glace avec une seule porte. Et il y a tout dedans. Soyez sans hypocrisie. Alors là se pose la question. Sans manquer de conviction, nous devons pourtant faire preuve d'humilité, de douceur et de respect. Première lettre de Pierre, chapitre 3, les versets 14 à 16, je vous le lis. 1 Pierre. chapitre 3, verset 14. D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte, c'est-à-dire d'eux, les adversaires. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Mais sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur Dieu, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect de l'espérance devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Répondez-leur avec douceur et respect. Alors la question est là. Est-ce qu'être tolérant signifie manquer de conviction? Pas du tout. Mais être tolérant à cause de nos convictions. Voilà. Quand on sait qui l'on est, on n'a pas peur. On peut affirmer paisiblement notre espérance. C'est reçu. Alléluia. C'est pas reçu. C'est dommage pour eux. Mais il ne s'agit pas d'agressivité, pas d'évangélisation agressive. C'est vrai que la frontière entre conviction et intolérance est mince parfois. Nous voyons un peu partout monter les intégrismes. Et toujours, ils font référence à un texte fondateur, inamovible, intangible, enfermant. Jésus nous invite à une autre attitude. Certes, nous sommes fondés sur le message de Jésus. C'est la parole de Dieu pour nous. Jésus, Christ, Seigneur, c'est la parole de Dieu venue jusqu'à nous. Faites chair. Ça, c'est le socle solide, le rocher sur lequel nous sommes ancrés. C'est justement pourquoi il nous faut être respectueux pour les autres et accueillants. Au fond, l'agressivité prospère sur le terreau de la peur. Les chiens qui mordent, c'est parce qu'ils ont peur souvent. Ceux qui veulent défendre à tout prix leur religion, c'est parce qu'ils ont peur pour elle. Mais un chrétien, est-ce que ça doit avoir peur? Nous n'avons rien à craindre. Et Jésus insiste dans les textes que nous avons lus. N'ayez crainte, n'ayez pas peur, ne les craignez pas. Ce n'est pas à nous d'avoir peur. Pour les disciples qui pensaient peut-être que le royaume incarné par Jésus conquérerait le monde sans coup férir, sans problème, les paroles de leur Seigneur ont dû faire l'effet d'une douche froide. Eux qui pensaient que le royaume allait s'établir et s'imposer à tous dans l'instant. Ça nous est rappelé par Luc dans le récit de Zachée. Les gens pensaient que le royaume de Dieu allait surgir à l'instant. Voilà. Et puis Jésus leur dit, oh là là, non, pas tout de suite. Et puis ça va même chauffer pour votre matricule. Il faudra attendre et persévérer. Et discerner. Et prier. Et endurer. Ah bon? Oui, douche froide. Jésus ne leur promet pas la facilité, mais des tribulations. Jean 16, 33, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Bien sûr, quand Jésus dit « j'ai vaincu le monde », il ne s'agit pas d'une conquête militaire. Quand la mission chrétienne s'est montrée impérialiste, quand elle est venue dans le sillage des colonisateurs, il ne faut pas s'étonner que la réaction parfois violente des populations concernées. Au XVIe siècle, l'évangélisation menée par les jésuites au Japon s'est terminée dans un bain de sang. Pourquoi ? Parce que les Japonais croyaient que les missionnaires chrétiens étaient là pour détruire leur civilisation. Jésus ne nous a pas envoyés pour détruire des civilisations. Il nous a appelés pour témoigner de l'amour de Dieu. Voyez-vous ? Et c'est toujours comme ça. Il n'y avait pas de fatalité. Au fond, on pourrait résumer en disant que Jésus impose à ses envoyés de faire profil bas. Douceur, respect. Et dans le sermon sur la montagne, vous connaissez bien, chapitre 5, 6, 7 de Matthieu, Jésus déclare que votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient vos belles œuvres. Pas seulement bonnes, mais vos belles œuvres, qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Les œuvres disent l'amour de Dieu pour ce monde mieux que beaucoup de discours. Lorsqu'au temps de l'empereur Constantin, le christianisme est devenu religion d'empire, il a perdu son âme. Il est devenu persécuteur. On devenait chrétien, non plus par la repentance, la conversion, mais par opportunisme, par effet de mode peut-être, pour se faire bien voir. Puis l'Église a calqué son fonctionnement sur celui de l'Empire de Rome. Et vous savez ce que ça a donné. Loisy, un historien catholique, dit « Jésus a annoncé le royaume et c'est l'Église qui est venue ». Ouais. Une Église qui a confondu la fin et les moyens. Ça nous guette, ça aussi, il faut faire attention. Vous me direz qu'on n'en est plus là aujourd'hui, certes. Mais j'observe, comme vous et moi, que notre société retourne au paganisme le plus intolérant. Il est possible aujourd'hui d'être traîné en justice ou de perdre sa place d'enseignant pour avoir lu certains textes de l'Écriture. Et pourtant, l'instit à qui c'est arrivé n'est même pas chrétien, n'est même pas croyant. Il a simplement lu un texte de la Bible et il a eu plein d'ennuis sur le dos. Dans quelle société nous vivons ? Et je ne vous le parle pas des questions qui touchent la famille, la sexualité, l'argent, la haine du monde dont il est question dans l'évangile de Jean. Jésus dit, ne vous étonnez pas si le monde vous hait, revient dans notre actualité, n'est-ce pas ? Nous le savons. Et pourtant, la parole de Jésus reste là, n'ayez pas peur. Ne les craignez pas. Aimez-les, tout simplement. Cette haine du monde monte en puissance de nos jours à nouveau. Mais moi, je trouve que c'est pour l'Église une chance. Ça vous surprend peut-être ? L'Église persécutée n'est pas seulement celle où l'on ferme les églises, où l'on emprisonne les chrétiens. C'est aussi l'Église menacée par une sorte de dilution dans notre société de consommation, de jouissance sans limite, d'égoïsme, d'hédonisme. Tout ceci nous persécute du dedans. Il ne faut pas se faire d'illusions. Jésus nous appelle à la vigilance, il nous appelle à la fermeté, sans être pour autant des intégristes, mais simplement des gens fidèles à ce qu'ils prêchent, à ce qu'ils disent, fidèles dans leur vie, dans leurs actes. N'ayez pas peur, ne vous étonnez pas, dit Jésus, si le monde dit du mal de vous. Et puis dans les épîtres, on trouve des passages semblables. Ils vous calomnient, dit un apôtre. Ils rendront compte au Seigneur de tout cela. Mais n'ayez pas peur, ne vous étonnez pas. Soyez clairs, quelle est la situation d'une église envoyée dans le monde ? Eh bien, ce n'est pas très confortable. Voilà tout ce qu'on peut dire. Oui, c'est une chance pour nous, une chance de retrouver une place plus authentique, de petits troupeaux. Alors, je voudrais bien quand même expliciter ce mot « petit ». Il ne s'agit pas de nombre. Il s'agit simplement de dépendance du Seigneur. Petit, c'est-à-dire sans puissance propre, sans sagesse propre, sans richesse propre, mais étant riche, étant fort, étant sage par la grâce du Seigneur. On l'a chanté, on vient de le chanter. Que le pauvre dise « je suis riche », que le faible dise « je suis fort », que l'ignorant dise « je sais que mon Rédempteur est vivant ». C'est tout ce qu'il faut savoir. Car en Jésus sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Petit troupeau, petit en termes de dépendance du Seigneur, petit en termes de vulnérabilité. Je vous envoie au nom d'un Dieu qui s'est rendu vulnérable. L'Évangile est celui d'un Dieu désarmé et non pas de l'Éternel désarmé. Il y a une différence. Nous aimons bien, nous, chanter la gloire de l'Éternel des armées. Les psaumes en sont pleins, l'Ancien Testament en est plein. Mais l'Évangile opère un changement profond. Sur la croix, Dieu est désarmé par amour. Il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Mais il vit par la puissance de Dieu. C'est bouleversant, ça. Personne n'a osé imaginer, aucun esprit humain n'a pu imaginer, penser, produire un Dieu désarmé. Nous sommes accompagnés par le Consolateur qui vient à notre secours pour annoncer l'évangile d'un Dieu pauvre, du très bas, comme a dit un auteur catholique. Le Dieu très bas. Je crois que c'est Christian Bobin, un nom comme ça. Le Dieu très bas. Oui, Jérusalem a tué les prophètes qui lui étaient envoyés. jusqu'à Jésus lui-même. Et voilà que Jésus nous dit que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Elle nous invite de ne pas craindre ceux qui, après avoir tué, ne peuvent rien de plus. Comment pourrions-nous mener une évangélisation conquérante et agressive au nom de ce Dieu désarmé? Ça ne colle pas. Moi, je me souviens de ma jeunesse où on faisait des croisades d'évangélisation. La croisade du livre chrétien. Et combien de cantiques guerriers chantions-nous? Soldats du Christ en avant, prenez l'épée de l'esprit. Et c'était tout juste si on ne disait pas qu'il fallait transpercer les gens. Non, on n'a pas dit jusque-là. Mais vous comprenez que ce langage guerrier heurte de plein fouet ceux que nous aimerions amener à la foi. Et certains, je ne veux pas nommer la religion à laquelle vous pensez tous, mais certains disent, mais nous on a raison de faire notre guerre sainte. Mais l'évangélisation n'est pas une guerre sainte. Il n'y a pas de guerre sainte. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Nous avons le mauvais rôle. Mais Dieu le change en son contraire, en fait. Je termine en vous rappelant les promesses, quelques promesses que Jésus nous a faites. Matthieu 28. Allez parmi toutes les nations, faites des disciples. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Le Saint-Esprit vous donnera des paroles et une sagesse auxquelles les adversaires ne pourront résister. Et on l'a vu avec Étienne dans le livre des Actes, chapitre 6. Quelques Juifs de différentes provenances se mirent à discuter avec Étienne, mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Pour autant, ça n'a pas empêché que Étienne meure lapidé. Voyez donc, d'un côté, Étienne vit quelque chose de très fort, de très puissant, mais il reste vulnérable. Et Jésus nous envoie avec cette vulnérabilité qui a été la sienne, mais au sein de laquelle il s'est incarné et dans laquelle il se plaît à habiter encore. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, non pas dans un coffre-fort suisse, dans des vases de terre. Promesse du début du livre des Actes et de la fin de Luc. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'en Finistère, en Morbihan, la petite mer. Que Dieu nous bénisse. Nous te louons, Seigneur, pour la confiance que tu nous fais en nous envoyant annoncer ta parole, en nous envoyant porter témoignage de ton royaume d'amour, de justice et de paix. Nous te remercions, Seigneur, pour cela. Bénis-nous tous ce matin. Fais reposer ton Saint-Esprit sur nous tous. Accompagne-nous dans toutes nos situations, tout ce que nous sommes appelés à vivre, que toi seul connais parfaitement. Jésus, que ta foi soutienne nos esprits, nos cœurs. Que ta paix inonde nos âmes, que ta joie irradie nos maisons, nos actes, afin que l'on voit à travers nous resplendir la lumière de ton règne. Amen.